Alors, j'ai la joie d'accueillir Sylvain à la chaire. C'est la première fois que Sylvain prêche devant une église, je crois. Hein? Alors qu'on lui fasse bon accueil. C'est courageux de te lancer. Et puis, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour Sylvain, pour l'appel que tu as placé sur sa vie dès sa conception dans le sein de sa mère. Et merci parce que c'est toi qui l'as conduit jusqu'ici. Tu lui as communiqué des paroles pour nous. Je te prie, donne-lui l'assurance et la paix dont il a besoin pour nous les transmettre. Et Saint-Esprit, toi, parle, je prie, à nos cœurs. Amen.
Voilà. Moi, c'est quand même un honneur de venir vous parler à vous ce matin. Ça s'inscrit en fait dans cette série sur les actes qui a été commencée au début de l'année. On était plusieurs à être initiés, à devoir lire les actes, puis ensuite choisir un passage qui nous parle pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Et je remercie les pasteurs qui ont suivi, ainsi que le groupe sur lequel on a travaillé, avec lequel on a travaillé. J'ai décidé aujourd'hui de reprendre le titre qui avait été donné au début de cette série, Actes de Dieu, Actes des apôtres, une mission qui grandit. Et en fait, aussi pour marquer la constance de la mission des apôtres, depuis leur début de leur ministère, donc depuis la montée de Jésus au ciel, l'ascension, ils gardent une mission, la même, faire connaître aux juifs et non-juifs qui était Jésus et annoncer qu'il est ressuscité. Leur périple, il est aussi marqué par la présence de l'Esprit de Dieu placé en eux. Et pour ce chapitre, je vais essayer de mettre en évidence comment Dieu œuvre pour accomplir et faire avancer ses plans avec les hommes. Donc, je vous fais un peu une situation. La dernière fois, c'était Jean-René Monod qui nous avait présenter le chapitre 17 et 18. Donc dans le chapitre 17, Paul arrive à Athènes et c'est dans cette ville que René Monod nous avait très bien décrit la délicatesse et l'humilité de Paul pour annoncer la nouvelle de Jésus ressuscité, où Paul avait encouragé les Athéniens dans leur ferveur religieuse et en prenant soin de les rassurer sur qui était Dieu et de leur dire que Dieu n'était pas un Dieu qui était si loin d'eux. Et ensuite, Paul est allé à Corinthe. Là-bas, notamment, Dieu parle à Paul pendant la nuit dans une vision et lui dit qu'il peut être sans crainte à Corinthe et continuer de parler sans se taire, car Dieu est avec lui et personne ne pourra le maltraiter, car dans cette ville, un peuple nombreux est destiné à Dieu. Je vous relate ce passage-là parce que ça va nous servir pour la suite. Un peu plus tard, dans le chapitre 18 toujours, les juifs hostiles au message de Paul l'amenèrent devant le proconsulat de Gallion, un gouverneur romain, pour le faire juger. Mais Gallion, le gouverneur, refuse de se mêler aux querelles concernant les doctrines juives et laisse Paul sain et sauf. Donc après ce passage à Corinthe, qui était la dernière fois, ce qu'on a vu, Paul continue son voyage, qui s'inscrit dans son deuxième voyage. Il se dirige vers la Syrie, par là. Et il passera d'abord par Éphèse, ici, où il se sépare de Priscille et Aquilas, et il dit qu'il reviendra ensuite. Il se sent appelé à passer par plein d'autres régions avant de se rendre un peu plus longtemps à Éphèse. Donc là, il fait tout un tour, il va à Césarée, ensuite il passe par Jérusalem, ici, et puis il va à Antioche, surtout plus sur la carte. Il repart à Galatie, et puis il va en Phrygie, et finalement il traverse les chaînes montagneuses et il se retrouve à Éphèse. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si il avait besoin de faire tout un chemin avant d'arriver à Éphèse, et il ne vient pas tout de suite à Éphèse. Quand il arrive à Éphèse, des gens de ce peuple, de cette région, n'avaient apparemment pas reçu le baptême de Jésus. Et uniquement le baptême de Jean. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus, le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait là une douzaine d'hommes en tout. Donc voilà, Paul arrive à Éphèse, il rencontre des gens qui n'ont pas été baptisés au nom de Jésus, mais par le baptême de Paul qui annonçait Jésus. Et quand il est dit que quand il prie, quand il les baptise, eh bien, le Saint-Esprit agit directement sur eux. Ce qui est intéressant, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui arrive chez ces croyants et qui leur permet ensuite de parler en langue et de prophétiser pour accomplir la volonté de Dieu. La puissance de Dieu pour transformer. En cette période à Éphèse, Dieu accomplissait des miracles peu banals par les mains de Paul. On peut faire l'hypothèse que cela permit de montrer que la puissance de Dieu, face à la magie pratiquée dans la ville, était, disons, plus forte. Des linges et des serviettes qui avaient touché Paul étaient utilisés pour soigner les malades et les esprits mauvais sortaient d'eux. Certains exorcistes juifs itinérants essayèrent de chasser les esprits mauvais hors des malades en invoquant le nom de Seigneur Jésus. Ils disaient « Je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame ». C'est ainsi que les sept fils d'un grand prêtre nommé Sceva s'essayèrent à cette pratique. C'est ce dont Nicolas faisait référence tout à l'heure. Ils s'essayèrent à ça, et l'esprit mauvais du malade leur répondit « Jésus, je le connais, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » L'homme avec l'esprit mauvais sauta sur les frères et prit l'avantage sur eux tous avec une telle violence que les frères s'échappèrent de la maison à moitié nus et couverts de plaies. Toute la population d'Éphèse, juifs et grecs, fut au courant de cette aventure. La crainte les envahit tous et l'on célébra la grandeur du nom de Jésus. Quand j'ai lu cette histoire, je trouvais déjà pas banale. Et puis, je me suis posé deux questions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pour les sept fils exorcistes du prêtre ? Alors, très certainement qu'ils ne relevaient pas les caractères du Christ. Et ils voulaient simplement utiliser la puissance de Christ comme de la magie, comme pour les autres actes de magie qui étaient utilisés dans cette région, ce qu'on peut en comprendre. Et voilà. Et du coup, Dieu ne laisse pas usurper son nom pour des gens qui finalement veulent simplement utiliser la puissance sans témoigner de qui est Christ. Pourquoi les gens furent remplis d'une crainte ? C'est ma deuxième question. On peut imaginer que l'extrême violence de la personne avec le mauvais esprit, finalement, c'est tellement violent que les gens voient qu'il se passe quelque chose d'important et que c'est quelque chose de réel, qui peut être dangereux et qu'on est face à une puissance qui est très forte et qui agite le mauvais esprit. Le mauvais esprit connaît Jésus. Ça prouve aussi que Jésus est connu, parce que à l'époque ils avaient beaucoup d'autres noms, beaucoup d'autres manières de faire de la magie et de voir des puissances. Et en fait, on voit que Jésus est connu de ses puissances, et c'est donc pas simplement un homme. Enfin, le mauvais esprit s'oppose à Jésus. Voilà. Donc c'est une force contraire. De plus, cela voudrait dire que si on utilise le nom de Jésus sans réellement le connaître, cela peut se révéler dangereux, comme pour les fils de Sceva. Et donc les gens qui pratiquaient la magie devaient être devaient se dire « Ah ben, il faut qu'on connaisse Jésus, qui est plus fort, qui est plus grand que les autres puissances. » Au final, l'esprit mauvais, donc, reconnaît Jésus. Et quel est l'impact que cette crainte a eu? C'est un impact qui a été considérable. Au verset 18, « Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient à avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie, je vais y arriver, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la puissance du Seigneur, la parole se répandait et se montrait pleine de force. Juste pour boire un peu d'eau. Finalement, Dieu a utilisé les fils du grand prêtre, qui pourtant avaient usurpé le nom de Jésus, et avec cela, il en fait un témoignage de sa puissance et de sa grandeur. Dieu utilise des moyens étonnants dans des réalisations que parfois nous ne comprenons pas ou nous ne nous attendons pas pour atteindre ses objectifs, ses plans. On aurait pu espérer qu'en utilisant le nom de Jésus, les fils puissent chasser cet esprit malade, ce mauvais esprit. Mais non. Et en effet, si la proclamation des fils de Sceva avait fonctionné, on aurait pu postuler que le nom de Jésus aurait simplement été comme une autre puissance utilisée pour chasser les esprits mauvais. Ici, cela nous montre que Dieu vise une transformation au final. Il cherche à ce que les gens puissent être transformés par le message, qu'ils puissent connaître le caractère de Jésus et pas uniquement sa puissance. Donc, si on demande juste à Dieu d'agir, sans le connaître, sans l'avoir rencontré, Dieu n'agira pas. Enfin, en tout cas dans cette situation où les gens usurpaient de son nom. Donc le nom de Jésus ne peut pas être utilisé à notre propre guise, pour honorer des désirs personnels de puissance. Et c'est là peut-être la différence. Dieu bien souvent nous montre dans la Bible qu'il agit quand cela s'inscrit dans ses plans. Des plans qui sont en fait des plans d'amour, comme nous dit Paul dans les lettres qu'il écrit plus loin, et non des plans d'emprisonnement ou de captivité. Peut-être à l'inverse des autres puissances de ce monde qui peuvent donner l'illusion d'une force à un moment, quand on la demande, mais qui gardent, en contrepartie avec un agenda caché, qui gardent la volonté de nous rendre captifs par derrière. Enfin, l'acte des sept frères pourrait être vu comme un échec des hommes qui, eux, agissent uniquement pour leur gloire personnelle. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Par cela, on voit que la parole de Dieu est alors soudainement, vigoureusement propagée. Dieu agit donc de manière infiniment plus grande que ce que nous prévoyons ou ce que nous pouvons parfois penser. Des actes surprenants qui dépassent les plans humains. Après cet épisode, Paul dit qu'il prévoit d'aller à Jérusalem en passant par la Macédoine et la Grèce. Il envoie déjà deux de ses aides en Macédoine, Timothée et Eraste, pendant que lui reste encore quelque temps dans la province d'Asie, vers Éphèse. À ce moment-là, il dit déjà, quand j'aurai été là-bas, à Jérusalem, il faudra encore que je me rende à Rome. Donc, Paul avait ce projet pour Rome, d'aller à Rome. Un peu plus tard, à Éphèse toujours, de grands troubles éclatèrent. Tout commença, tenez-vous bien, par un petit artisan bijoutier, Dimitrius, qui fabriquait des petites copies en argent du temple d'Artémis. Artémis, c'était une déesse orientale de la fécondité. Grâce à ces ventes de petits temples, les artisans de la région, enfin de petits temples et autres business sur le temple, faisaient beaucoup d'argent. Dimitrius rassembla alors les artisans et ceux qui avaient un métier semblable dans la région et leur dit... Ah pardon... « Messieurs, vous savez que notre prospérité est due à ce travail. Mais vous voyez ou entendez ce qui se passe. Ce Paul déclare en effet que les dieux faits par les hommes ne sont pas des dieux et il a réussi à convaincre beaucoup de monde, non seulement ici à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Cela risque de causer du tort à notre métier et, en outre, de faire perdre toute sa réputation au temple de la grande déesse Artémis. » Alors, il sera privé de sa grandeur, cette déesse qu'on adore partout dans la province d'Asie et dans le monde. Les artisans se réunirent et se mirent en colère. Et dirent, grande est l'Artémis des Éphésiens. Et l'agitation se fit ressentir dans toute la ville. Ils embarquèrent deux Macédoniens, qui étaient des compagnons de Paul, et les amenèrent au théâtre. Paul était déterminé, à la base, à se rendre à ce théâtre avec tous ces gens qui s'agitent, mais les disciples l'en empêchèrent. Des hauts fonctionnaires de la province d'Asie, amis de Paul, lui envoyèrent aussi des messages pour le recommander de ne pas s'y rendre. Il est dit que la foule était complètement désorganisée. Pendant ce temps, c'est marqué, l'assemblée était en pleine confusion. Les uns criaient une chose, les autres une autre. Et la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. À un moment, il y a un juif qui entend ce qui se passe et qui aimerait parler pour les juifs, mais la foule le retient et dit, quand elle voit que c'est un juif, et il crie encore plus fort, pendant 2 heures, les mêmes mots, « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Alors, on voit cette situation de pagaille, où en plus deux Macédoniens, compagnons de Paul, sont pris à partie, et c'est alors que le secrétaire de la ville réussit à calmer cette fureur en disant, Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple et de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'était une croyance justement que cette statue était tombée du ciel. C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience, des gouverneurs qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif pour nous permettre de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il congédia l'assemblée. Comment se fait-il que Dieu utilise un secrétaire de la ville, donc un dirigeant de la ville qui avait une grande influence, païen, qui en plus soutient que Artémis est la grande déesse, pour finalement apaiser cette situation et sauver les deux Macédoniens, mais aussi la mission de Paul? C'est pas un peu surprenant? C'est un peu comme dans le chapitre précédent à Corinthe, où le gouverneur Gallion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne voulait pas se mêler aux affaires des histoires des Juifs et il n'a pas voulu arrêter Paul. À nouveau ici, la mission de Paul sera préservée par un païen qui ne défend pas les valeurs chrétiennes mais la loi. Dieu a de grands projets et il les réalise de manière plus grande de ce que nous pouvons penser, peut-être plus inattendue. La mission de Paul ne s'arrête pas à Éphèse. Ainsi, Dieu lui permet de continuer son chemin en mettant des gens, pourtant parfois non chrétiens, qui vont lui permettre d'être protégé jusqu'à Rome, là où il sera appelé à aller. Conclusion. Dieu est le Dieu de l'univers, de toute la terre, dont les actions dépassent bien souvent nos propres conceptions. Souvent, il agit pour permettre la propagation de l'Évangile et il peut tout utiliser pour réaliser ses plans. L'institution romaine à Corinthe, les échecs des humains par les 7 fils de Sceva, ou encore les lois et puis un dirigeant païen lors de l'émeute à Éphèse. Je me pose alors une question. Sommes-nous prêts à chercher à participer à des plans plus grands que ceux qu'on peut imaginer? Est-ce que dans ma vie, je laisse la place et fais confiance à Dieu pour qu'il agisse par des moyens inattendus ou peut-être différents que ce que j'attendrais. Dans l'épisode avec le mauvais esprit, Dieu nous montre aussi qu'il désire qu'on connaisse son amour, son projet pour nous, et pas uniquement sa puissance. Et je pense que Paul est un excellent exemple d'une personne qui a été transformée par cet amour et ensuite qui a vécu plein de choses incroyables. Il a vu des miracles, il a été appelé à parcourir le monde. Et à chaque fois, il essaie de rester à l'écoute de où il doit aller. Et finalement, il observe ce que Dieu fait et continue sa mission de simplement partager, évangéliser, informer toutes ces régions de ce que Christ a changé, Christ qui est mort pour nous, et que c'est finalement l'histoire d'un don, d'un cadeau d'amour. Ah oui. Pour ceux qui aiment bien les petits symboles, si vous connaissez ces quatre pictogrammes qui résument finalement la foi, on peut voir que Dieu m'aime. Dans ce passage, on peut voir que Dieu m'aime. Et puis aussi, Jésus est mort pour moi. C'est la mission des apôtres, informer de ça. Et puis, évangéliser. Et puis, est-ce que je décide de suivre Jésus? Voilà. Voilà, c'est sur ces paroles que je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous voudriez faire?